Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 25 mai avec le journal de Sébastien Logeli. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec une AG agitée.
L'Assemblée Générale de Total Énergie à Paris, des militants écologistes qui empêchent l'entrée d'une partie des actionnaires. Ambiance tendue, on l'entendra, mais au bout du compte, une stratégie climat validée à près de 90%. Le récit de cette journée mouvementée dans un instant. L'effroi et la douleur à Uvalde au Texas, on commence à découvrir les noms de chacun des 19 enfants tués hier par un jeune lycéen de la ville. Nous serons sur place, nous tenterons également de brosser le portrait du tueur Salvador Ramos. À suivre aussi 70 migrants disparus au large des côtes tunisiennes, le parquet de Paris, qui en l'état n'ouvre pas d'enquête sur le cas de Damien Abad, le portrait type du candidat aux législatives, et pour finir, un coup d'œil sur la croisette avec le dernier film de Rachid Bouchareb sur Malek Houssekine.
À 18h15, un jour dans le monde et un jour en Amérique qui, hélas, ressemble à tant d'autres. Les tenants des lois anti-armes repartent à la charge après cette tuerie du Texas dont vous parliez, Sébastien, mais assuré d'échouer probablement. Échec pour Joe Biden lui-même, qui a essayé en 94, en 2012 et aujourd'hui encore. Échec d'une Amérique aussi empêtrée dans sa lecture rigoriste de la Constitution. À 19h20, c'est le téléphone sonne, non moins tragique. Et là aussi, ce sont des associations, des familles, des avocats qui repartent à la charge pour que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron soit celui du rapatriement des enfants de Syrie. 200 enfants français et leurs mères qui croupissent littéralement dans des camps. Cette fois, les associations de victimes d'attentats s'associent à ces demandes de rapatriement. Vous nous direz où vous en êtes, vous, sur ces questions. On en discute ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les grands groupes pétroliers de plus en plus chahutés.
Oui, hier, l'Assemblée Générale de Shell à Londres a dû être suspendue sous la pression des militants. Aujourd'hui, c'était au tour de Total Énergie, le groupe français, qui devait faire valider par des actionnaires sa nouvelle stratégie climat, mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu. 200 manifestants écologistes ont bloqué ce matin l'accès à la salle Pleyel, insultés parfois par des actionnaires empêchés de rentrer. Finalement, l'AG a pu avoir lieu, mais en tout petit comité en visioconférence. Bonsoir Célia Quiret.
Bonsoir Sébastien.
Au-delà de l'action coup de poing de ce matin à laquelle vous avez assisté, il y a bien eu un vif débat au sein des actionnaires autour de la stratégie à long terme du groupe pétrolier.
En raison du mouvement des activistes, on ne peut pas vous faire entrer à l'intérieur de la salle.
Oui, certains actionnaires crient au scandale, mais d'autres, comme Emmanuel Babin, n'hésitent pas à critiquer la politique climat de Total Énergie, qui investit toujours à 70% dans le pétrole et le gaz fossile.
C'est ça surtout que Total doit arrêter. Comme dans toute entreprise, c'est de l'intérieur qu'on change les choses, en disant que nous, on est actionnaires, que oui, on préférerait peut-être perdre quelques pourcents de dividendes certaines années pour que Total investisse dans le renouvelable plutôt que gagner 2 euros de plus par action. Et on est parents, on a des enfants, on se demande vraiment quelle planète on est en train de leur laisser.
À l'intérieur, l'Assemblée Générale se tient à huis clos. Le PDG, Patrick Pouyanné, à peine gêné par ce désordre extérieur, défend ses choix.
Moi, je peux vous dire que si j'avais cru il y a 7 ans qu'on investirait 25 à 30% de nos investissements dans les énergies renouvelables, je ne l'aurais pas cru. Encore une fois, vous l'avez noté, la résolution, fameuse résolution climat pour laquelle on nous annonçait pique-pendre a été soutenue par 89% des actionnaires. Et l'entreprise avance pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et pour votre conseil d'administration.
Mais 11% seulement d'opposition au plan climat de Total, cela ne suffit pas pour infléchir la stratégie du groupe. Lucie Pinson de l'ONG Reclaim espère que les actionnaires se rebelleront encore plus l'année prochaine.
C'est un processus extrêmement long. Après, les actionnaires n'ont pas que l'outil du vote en Assemblée Générale. Certains, on l'espère, désinvestiront de l'entreprise. Elle est toujours sur une croissance de sa production d'hydrocarbures qui nous emmène dans le mur.
Et selon les climatologues du GIEC, il faut réduire notre usage du pétrole de 60% d'ici 2050.
Célia Quiret, spécialiste environnement inter.
C'est une ville, Sébastien, au cœur brisé, dévasté.
La ville d'Uvalde, au Texas, s'est réveillée ce matin sous une chape de plomb. Hier après-midi, elle a connu l'une des pires tueries aux États-Unis depuis 10 ans. 19 enfants de moins de 10 ans tués à l'arme à feu par un lycéen de 18 ans, deux enseignants également, et ont laissé la vie. Moins de 24 heures après, L'un de nos reporters s'est rendu dans cette ville de 16 000 habitants où l'on découvre peu à peu les détails de ce drame épouvantable. Les précisions de Pierrick Laurent.
Autour de l'école élémentaire d'Uvalde, les enquêteurs ont travaillé toute la nuit pour retracer minute par minute la fusillade de ce mardi. Ce matin, des dizaines d'agents du FBI, de la police locale et des services de secours sont toujours à pied d'œuvre face à des centaines de journalistes. Quelques parents d'élèves viennent aussi se recueillir sur les lieux, mais sans un mot. Après les heures d'angoisse hier, des familles sans nouvelles de leurs enfants, c'est le moment du deuil qui commence. Les noms des 19 élèves tués dans la fusillade commencent à être révélés, comme Amri Jo Garza, 10 ans, une petite fille que son père décrit comme toujours souriante, active, qui aimait déjeuner avec ses camarades de classe le midi à la cantine. Les circonstances aussi s'éclaircissent peu à peu. Les 21 personnes tuées l'ont été au sein d'une même classe dans laquelle le tireur, Salvador Ramos, 18 ans, s'est barricadé. Les enquêteurs tentent maintenant de comprendre ses motivations. À Uvalde, Pierrick Laurent pour France Inter.
Bonsoir Julie Pietri.
Bonsoir.
On l'a entendu, le meurtrier tout juste majeur s'appelle Salvador Ramos, tué par la police, décrit comme un lycéen taciturne et qui venait de s'acheter deux fusils d'assaut.
Il est identifié comme un citoyen américain, donc de 18 ans, scolarisé dans le lycée de la ville, c'est ce qu'a expliqué le gouverneur du Texas. La presse américaine a commencé à interroger son voisinage, ses proches, ses amis, et effectivement, ce qui ressort pour l'instant, même si cela reste évidemment affiné, c'est un profil de jeune garçon solitaire, une vie de famille décrite comme difficile, des troubles de la parole, un bégaiement qui lui valait moquerie et intimidation à l'école, écrit par exemple le Washington Post. Un jeune homme qui a déjà eu des accès de violence à l'égard de proches et d'inconnus et qui s'est déjà mutilé le visage au couteau, raconte un ami dans ce même journal américain. Selon la sécurité publique du Texas, cependant, il n'avait pas d'antécédents criminels connus. La piste d'un lien avec un gang a également été écartée. Selon les autorités, avant de tuer à l'école primaire, il a probablement tiré sur sa grand-mère qui est hospitalisée. Il y a quelques jours, il avait posté des photos sur les réseaux sociaux, sur Instagram, fusil d'assaut, chargeur et lui, cheveux mi-longs, impassible.
Julie Pietri. Le président russe qui s'affiche aux côtés de soldats blessés, Vladimir Poutine a pour la première fois rendu visite sous l'œil des caméras des soldats russes dans un hôpital de Moscou aujourd'hui. Sur le terrain, la pression est de plus en plus forte sur la ville de Severodonetsk dans le Donbass. Les troupes russes sont si proches qu'elles peuvent désormais tirer au mortier. Et maintenant, ce drame qui continue de se jouer en Méditerranée, désormais loin des caméras, la mort de dizaines de migrants qui tentent de fuir la Libye. Ce matin, un bateau transportant une centaine de personnes a fait naufrage au large de la Tunisie. Et plus de 70 personnes, Faustine Calmel, sont portées disparues.
Oui, cette embarcation partie de Libye, donc a chaviré au large de la Tunisie. La marine et les gardes-côtes ont pu secourir 24 personnes. Toutes les autres sont portées disparues. Hier déjà, les corps de 4 migrants avaient été récupéré par la marine libyenne. C'est aussi au large de ce pays, la Libye, que l'association SOS Méditerranée a secouru 75 migrants avant-hier, portant à 296 le nombre de rescapés à bord de son navire en Méditerranée, l'Ocean Viking. Et Sophie Beau, sa directrice générale, se désole de ne trouver toujours aucun port où débarquer.
Nous en sommes à la quatrième demande aux autorités maritimes. Notre navire est à l'est de la Sicile actuellement, donc dans l'attente de la désignation d'un port. La crise n'a pas disparu. Il y a déjà plus de 600 morts qui sont recensés par l'Organisation internationale des migrations. C'est une situation devenue un peu invisible. Notre devoir, c'est aussi justement de témoigner pour pouvoir alerter les autorités, les pays responsables qui devraient mettre en place des mécanismes d'abord de sauvetage et ensuite des mécanismes de répartition pour les naufragés.
Alors en 2019, des discussions avaient débuté entre 7 pays européens pour la mise en place d'un mécanisme commun. Mais la crise Covid a entièrement stoppé le processus de négociations, des négociations qui n'ont pas vraiment repris depuis.
Faustine Calmel, Boris Johnson sévèrement secoué aujourd'hui devant les communes. Le rapport sur les fêtes au 10 Downing Street pendant le Covid est enfin sorti, pointant du doigt la responsabilité des dirigeants du gouvernement. Le Premier ministre britannique s'est à nouveau excusé devant les députés.
La justice française a décidé de ne pas ouvrir d'enquête en l'état dans l'affaire d'Amir Abad.
Oui, pas d'enquête préliminaire à ce stade, selon le parquet de Paris, qui a été destinataire ces derniers jours d'un courrier de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles évoquant le cas de deux femmes qui accusent le ministre des Solidarités de violences sexuelles. Bonsoir Jean-Philippe Dogneau.
Bonsoir Sébastien.
Ça ne veut pas pour autant dire, hein, Jean-Philippe, que la justice refuse d'enquêter à l'avenir.
Oui, voilà, c'est juste une question de doctrine. Le parquet de Paris ouvre systématiquement une enquête lorsque des faits visant une personne mineure sont publiquement dénoncés. C'est par exemple ce qui s'était produit à l'automne 2019 quand Adèle Haenel s'est exprimée une première fois chez nos confrères de Mediapart en dénonçant des agressions sexuelles qu'elle aurait subies de la part du réalisateur Christophe Ruggia alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans. Là, le parquet avait ouvert une enquête 3 jours après, mais cette enquête n'avait vraiment pu démarrer que quand l'actrice a choisi elle-même de porter plainte 3 semaines plus tard. Dans l'affaire qui vise Damien Abad, les 2 signalements parvenus à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, signalements que l'Observatoire a transmis à la justice en fin de semaine dernière, sont anonymes et ils concernent des faits visant des personnes majeures. Le parquet de Paris a donc besoin de pouvoir identifier les auteurs de ces signalements avant d'ouvrir une enquête et procéder, entre autres, à leurs auditions.
Jean-Philippe Degnaud, ce soir, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique s'étonne vivement de cette décision, expliquant que l'une des victimes préfère rester anonyme, pas capable, je cite, de survivre à un tourbillon judiciaire destiné à blanchir son violeur. Ce n'est à l'heure actuelle qu'une réflexion, mais elle va intéresser à tous les automobilistes. Le ministère de l'Intérieur étudie la possibilité de ne plus retirer de points sur le permis de conduire aux automobilistes coupables de petits excès de vitesse, c'est-à-dire si vous êtes à 5 km/h au-dessus de la limite à suivre. On en vient à la politique législative dans moins de 3 semaines et on se pose la question ce soir de savoir quel est le portrait robot du futur candidat au prochain scrutin, dressé grâce aux données publiques du ministère de l'Intérieur. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Et le candidat type s'appelle Philippe Martin.
Ah, ils sont une centaine de Philippe au total et 26 à s'appeler Monsieur Martin. Pas de surprise, c'est déjà l'un des noms de famille les plus répandus chez les maires, les conseillers départementaux et régionaux. Moyenne d'âge, 49 ans. Là aussi, c'est une constante. Les candidats aux élections locales sont principalement des cadres et quinquagénaires. Les plus jeunes, 44 ans en moyenne, sont encartés à la France insoumise. Les plus vieux, au Parti communiste, avec un grand écart entre la candidate écologiste des Ardennes, 92 ans, et la représentante LR en Moselle, 18 ans à peine, qui passe en ce moment les épreuves du bac. Mais jeunes ou vieux, ce sont surtout des cadres, des diplômés. La moitié des candidats exercent des professions intellectuelles. À l'inverse, on compte 4% d'ouvriers et globalement une petite amélioration de la parité. 44% de femmes au total. Elles sont majoritaires à l'UDI, au sein de la NUP, LFI, les écologistes. Seule vraie exception, le camp Les Républicains n'a investi que 35% de femmes. C'est moins qu'en 2017, quand LR avait présenté 39% de candidates.
Antoine Gignot, journaliste type au service politique d'Inter.
Allez, on termine à Cannes, Sébastien, avec un nouveau film sur les blessures mémorielles françaises.
Après Tirailleurs de Mathieu Vadepied et Les Harkis de Philippe Faucon, le Festival de Cannes a pu découvrir en effet aujourd'hui Nos Frangins de Rachid Bouchareb. Le réalisateur d'Indigène se penche sur l'affaire Malik Oussekine, cet étudiant franco-algérien tué par des policiers en 1986 et qui fait l'objet d'une série en ce moment. Rachid Bouchareb qui a fait le choix de mettre l'histoire de Malik Oussekine en parallèle avec celle d'un autre jeune tué par un policier le même soir. Delphine Evenou.
Nos frangins, ce sont Malik et Abdel que Renaud chante dans Petit en 88, générique du film.
Pour nos frangins qui tombent.
Malik Oussekine, dont la famille se bat pour obtenir la vérité, et Abdel Ben Yahia, tué par un policier ivre le même soir. Famille pauvre que la police mettra 48 heures à prévenir pour éviter d'amplifier encore la contestation. Le film les met en miroir pour raconter un fait de société, la brutalité policière contre les jeunes issus de l'immigration dans les années 80. Reda Kateb incarne le frère de Malik Oussekine.
À travers Abdel, ce visage qu'on ne connaît pas, ça ouvre sur tous les anonymes, sur tous ceux dont on n'a jamais parlé, sur tous ceux pour lesquels on n'a jamais fait de marche blanche. Et tous ces anonymes, bah, ils peuvent se situer dans les années 80, mais aussi malheureusement de nos jours.
Rachid Bouchareb, lui, avait 33 ans en 86.
Voilà, on le prend, on le vit, on est collé sur la page.
Il a gardé le sujet en tête et attendu d'être prêt.
Je me suis aussi enrichi, j'ai aussi découvert, et j'étais, avec ce recul de 35 ans, dans une écoute différente et dans une perception différente. C'est pour ça que c'est intéressant de laisser des sujets comme ça et d'attendre le moment de les faire. Parce que là, j'étais prêt à aller travailler sur l'archive.
Des archives qui, à la manière de piqûres pédagogiques, jalonnent ce long métrage assez classique qui a séduit le public cannois.
Nos frangins de Rachid Bouchareb sur l'affaire Malik Oussekine, présenté en sélection officielle hors compétition.
Et merci beaucoup Sébastien, avec vous dans Sous les radars. Tout à l'heure, on fera la connaissance d'un jeune hacker vietnamien dont l'histoire est hollywoodienne,
tout
vraiment.
À fait.
On parle des États-Unis ce soir, évidemment, avec Corentin Célin, ce pays figé dans sa législation sur le port d'armes. Et puis, en deuxième heure, c'est le téléphone sonne et nous reposons la question encore. Pourquoi la France est-elle le seul pays à ne pas rapatrier les enfants de Syrie? 200 enfants et leurs mères qui vivent dans des des camps, sans hygiène, sans nourriture suffisante, sans médecins, sans école. Cette fois, les associations de victimes d'attentats, elles aussi, s'associent à ces demandes de rapatriement. Vous les entendrez bien sûr. On parlera de ce que deviennent les enfants aussi quand ils rentrent. Vos avis, vos questions pour nos invités au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et c'est Sébastien Léas qui passe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabien. Bonsoir.
Matinée nuageuse, plus lumineux l'après-midi pour demain.
Oui, la perturbation arrivée sur le nord-ouest cet après-midi va s'engouffrer sur le pays ce soir et cette nuit. Demain matin, les nuages s'étendront des côtes de la Manche et de la façade atlantique au midi toulousain, au massif central jusqu'à la Bourgogne et au Grand Est. Quelques gouttes seront possibles, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Au fil des heures, la couche nuageuse va se morceler, les éclaircies vont s'élargir et devenir de plus en plus belles. Sur le Boulonnais, le soleil reviendra dès le matin, alors que sur la Bretagne et la Normandie, ainsi qu'au sud de la Garonne, le ciel restera chargé. En Franche-Comté, le soleil du matin laissera place à un après-midi plus variable. Du Languedoc-Roussillon à Rhône-Alpes, la journée sera bien ensoleillée. Et puis sur la Provence et la Corse, le ciel sera plus changeant. Une évolution orageuse est attendue l'après-midi sur les Alpes du Sud, avec même quelques débordements pouvant glisser vers la Côte d'Azur.
Et quelques degrés de plus.
Oui, minimal comme maximal seront en hausse demain. Au lever du jour, il fera 8 à 14 degrés en général. L'après-midi, les températures afficheront 16 à 25 degrés. Autour de la Méditerranée, l'ambiance matinale sera plus douce, avec déjà 15 à 20 degrés. Et puis l'après-midi, il fera même chaud avec 24 à 31 degrés. Prévoyez 22 degrés à Nantes, Paris, Reims, Besançon et Bordeaux, 24 degrés à Lyon et Strasbourg et 30 degrés à Marseille et à Montpellier.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure après 19h.